Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et donc on rentre de plein pied dans cette émission et on va parler trading avec Jean-Louis Cussac. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Cédric.
Ravi de vous retrouver sur Radio Patrimoine, Perceval Finance Conseil. On vous suit depuis des années sur ce monde du trading et on précise à chaque fois, vous êtes trader pour compte propre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que c'est que ce métier de trading, de trader pour compte propre? En quoi est-ce que ça diffère éventuellement d'être pour compte propre ou d'être un autre type de trading quand on bosse pour un fonds ou pour une banque?
Oui, bien sûr. Alors, en France, quand on dit trader pour compte propre, c'est pour soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, on ne gère que son argent et ensuite, on peut avoir une activité comme moi de recommandations différents supports, notamment...
De guide, quoi, finalement.
Oui, bah, des idées d'investissement qu'on propose, ou des idées de placement, ou des idées spéculatives, ou des stratégies de fonds. Moi, c'est plutôt des stratégies de fonds que je propose. Et après, vous avez le trader pour compte propre d'une banque.
D'accord. C'est-à-dire
pour le compte de la banque. Mais ça se fait de moins en moins, depuis l'affaire Kerviel, et ils ont carrément, quasiment tous disparu, on peut dire, hein. Et après, vous avez des traders qui travaillent en effet pour des fonds. Et là, bien sûr, ça existe encore. Alors après, il y a tellement de formes de trading. Ça peut être du court terme, du moyen terme, du long terme. Quand on parle long terme, on va plus se rapprocher de la profession de gérant, hein, quelque part.
Bien sûr.
On a plus l'habitude de dire gérant d'un fonds, etc. Trader, c'est plutôt... autour du mot trading, trader, il y a beaucoup de fantasmes, mais... l'idée, c'est, en règle générale, de profiter d'opportunités à plus court terme.
D'accord.
Alors, je fais cela, bien sûr, mais je fais aussi des stratégies long terme. D'ailleurs, c'est la base de nos recommandations. Elles sont sur des horizons de temps. On ne sait pas combien de temps va durer une tendance. Et parfois, ça peut durer 6 mois, on va être haussier, et chaque jour, on va essayer d'attraper des opportunités sur des replis, on va acheter sur des replis, dans le sens de la tendance de fond que j'aurais déterminée comme étant haussière ou baissière. Et à ce moment-là, si c'est la baissière, on aura prioritairement une recherche de vente sur des points de rebond, par exemple. Vous voyez. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais... surtout pas trop de fantasmes sur le trader qui est un... C'est pas un devin,
ouais.
On en reparlera, c'est vraiment, il faut des méthodes.
Justement, en fait, ça fait plusieurs dizaines d'années que vous êtes sur ces marchés, que vous tradez au quotidien. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Parce que quand on regarde, nous, les marchés, on se dit finalement, entre la corbeille décrite par René Tendron dans les années 80 ou la bourse telle qu'elle est aujourd'hui, où on nous parle de cotation à la milliseconde, etc., on se dit qu'il y a un monde. Est-ce que dans le trading aussi, ça a changé au cours de toutes ces années?
Ah oui, oui, c'est énorme. On est passé entre les années 80, moi j'ai commencé en 82, à m'y intéresser, et j'ai eu ma carte professionnelle en 83. Et on est passé de la préhistoire à la haute technologie, bien évidemment. Il s'est passé plus de choses entre 80 et 2000 qu'entre 1900 et 1980. Mmh. Et donc, les principales différences, c'est quoi? C'est déjà les cotations électroniques. Ça a changé l'accessibilité au marché. Parce qu'avant, c'était plus compliqué. Donc, crier, corbeille, il fallait envoyer des ordres par téléphone qui étaient centralisés entre midi et 14h30 sur le Haut Palais Brongniart. Mmh. Après, quand il y a eu les cotations électroniques, ça a permis à chacun, via même au départ le Minitel, de passer des ordres qui étaient acheminés directement au marché. Et puis voilà, ça a été de plus en plus vite, de plus en plus
facile. Et maintenant, c'est des plateformes, des robots automatisés qui font ça à la milliseconde, quoi.
Éventuellement, pour même parfois des clients particuliers qui créent des robots et qui sont des traders extrêmement actifs. Il y en a énormément, notamment aux États-Unis. Donc oui, le changement est gigantesque. La vitesse aussi d'information, ça n'a plus rien à voir.
Bien sûr. Justement, enfin, vous disiez qu'il y a des fantasmes, etc. Il ne faut pas qu'il y ait de fantasmes. Mais dans le grand public, en fait, le mot trader, le mot trading, c'est souvent vraiment associé à du risque, à une activité vraiment très risquée. Quelles sont les erreurs les plus fréquemment commises, on va dire, par les particuliers quand ils se lancent sur le marché en se disant « Allez, je vais être le loup de Wall Street ».
La première erreur, c'est pas de se former, c'est d'arriver là-dedans en pensant que le bon sens suffira, parce qu'après tout, vous arrivez sur un marché, vous vous dites, ça peut monter, ça peut baisser. Bon, eh bien, je pense que mon bon sens
va me protéger ou va me guider.
Va me faire avoir raison peut-être 3 fois sur 5. Le problème, c'est que ça ne suffit pas. Donc, il y a beaucoup de choses, encore une fois, c'est vrai, à dire sur la manière dont il faut aborder les choses. Souvent, ce sont, dans le trading, les effets... Qui dit trading dit aussi effet de levier dans la tête des gens. Donc, ils ne se rendent pas
on
compte...
On multiplie...
Le gain potentiel, mais aussi la perte potentielle. Et donc, à ce moment-là, vous avez vraiment des... sur le plan psychologique, beaucoup de choses qui se mettent en route. Après, la cupidité aussi des gens peut... naturelle, hein, vous savez, c'est pas forcément... Mais on est tous un peu cupides, peut-être, à certains moments. On se dit, ah, ben, je vais gagner plus, etc. D'ailleurs, dans la scène de Le Sucre, le petit plus, vous vous souvenez, quand ils ont voulu gagner le petit plus, et il fallait partir. Donc, c'est compliqué, parce que c'est pas une science exacte, mais en même temps, faut apprendre des choses. À la limite, c'est presque comme une partie d'échecs où vous apprenez à jouer, vous connaissez les règles, vous avez des idées, etc. Mais pour arriver à devenir un très fort joueur, il faut beaucoup travailler, et en bourse, c'est la même chose.
Qu'est-ce qu'il y a comme indicateurs, finalement, qui sont à disposition du trader aujourd'hui ?
L'indicateur principal, c'est le prix. Alors, ce n'est pas une dérivée du prix dont je parle, là, c'est le prix. Le prix et sa forme, c'est pour moi la chose la plus importante. Donc, après... On regarde un graphique, vous avez énormément d'outils qui peuvent vous donner évidemment des graphiques en temps réel, et vous regardez simplement dans quelle direction part le prix. Après, ce qui fait peur aux gens, c'est ben, quand il y a des... Est-ce qu'il y a un retournement de situation ? Mais cette peur vient souvent de l'effet de levier qu'ils vont utiliser dans leur prise de risque. Et c'est là où ils ne se rendent pas compte bien souvent... de la capacité à bouger du truc, de la valeur, mais ça peut être une valeur...
Ça peut être un indice, ça peut être une matière
première... Voilà, un taux... Voilà, ils ne se rendent pas compte de sa capacité à bouger, de sa volatilité potentielle. Donc si on fait facilement 10% à la hausse ou à la baisse, et en ce moment, sur les actions, c'est terrible, et que vous jouez, par exemple, à 5 fois la mise, parce que là, ça devient du jeu... 5 fois 10%, ça fait 50%. Ouais. Eh bien, à ce moment-là...
À la hausse, ça va, à la baisse, c'est plus compliqué.
Donc, dès que vous commencez à perdre même 25%, vous vous dites, oh là là, mais vous avez la pression qui augmente. Et à ce moment-là, le cerveau, il ne fonctionne plus normalement. Il y a la peur, il y a l'angoisse, vous avez envie que ça s'arrête. Et quand vous perdez même 25, vous dites, mais il en faut peu pour que je perde 25 de plus. Et là, voilà, c'est la panique. Les gens n'ont pas de plan, ils font n'importe quoi.
Mais est-ce qu'il y a des stratégies, entre guillemets, qu'un trader professionnel commence par ciseler, etc., et puis qui peuvent être finalement répliqués par des épargnants qui s'initieraient un petit peu.
Il y a des prises de conscience nécessaires. Donc déjà, cette capacité à bouger du produit qu'on va traiter. Ensuite, il n'y a pas de méthode miracle. Ça, c'est... C'est partie du fantasme.
Il n'y a pas de truc... Il n'y a pas de martingale.
Non, il n'y a pas de martingale, et le trader n'est pas un devin. Un bon trader, c'est quelqu'un qui suit une méthode, un process, on pourrait dire plutôt, parce que méthode, ça amène tout de suite l'idée du méthode miracle, ça me gêne un peu. Mais bon, on va parler quand même de process, de méthode, et qu'il a, si vous voulez, testé, retesté, qu'il a utilisé et dans laquelle il a confiance. C'est pour ça qu'il a besoin de se raccrocher à quelque chose. Hein, le trader, vous savez, c'est dur, hein, ce métier. Donc, il faut qu'il ait confiance d'une manière de faire en utilisant les différents outils à sa disposition. Et comme vous le disiez tout à l'heure, entre 1980 et aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Déjà en 87, les options sont arrivées, mais la montée en puissance vraiment des options, ça a été les années 2000. Et là, ces derniers temps, c'est encore monté d'un cran. Donc, il faut savoir utiliser les produits à disposition et connaître leurs conséquences sur les phénomènes de construction de marché, etc. Donc, en fait, c'est très vaste. Il faut une connaissance... à la fois pointue, technique, en effet, sur les outils, mais sur la manière dont sont construits les marchés. Et là, il y a beaucoup moins d'experts dans ce domaine, parce que c'est vaste, il faut l'avoir vécu, il faut vraiment avoir été dedans, et c'est en étant dedans, avec des gains et des pertes, qu'on arrive à progresser.
Jean-Luc Hussac, vous le disiez, il y a eu beaucoup d'évolutions, Et vous parliez tout à l'heure des outils, des plateformes numériques, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, n'importe qui, même au fond de sa poche, sur son smartphone, peut avoir accès à des applis qui lui donnent un petit peu l'impression, finalement, d'être comme chez vous, devant ses écrans et de pouvoir trader. Comment est-ce qu'on peut s'initier un petit peu au trading? Vous disiez, il faut se former, etc. Comment est-ce qu'on peut le faire de façon, on va dire, progressive, responsable, sans prendre non plus de risques inconsidérés quand on est épargnant non professionnel?
Ah, c'est difficile parce que chacun va aller dans une direction qui lui est propre. Souvent, les gens se surestiment peut-être un petit peu. Ils se disent, moi, je connais bien l'économie, par exemple. Oui, mais l'économie et le trading, c'est deux choses vraiment totalement différentes. Combien de fois sur les marchés, on voit des divergences entre ce que font les marchés financiers, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils anticipent, et la réalité du moment où le particulier, notamment, va se dire « mais ça va très très mal ». Là, par exemple, ça va très très mal en France. Et pourtant, les marchés résistent, donc les gens ne comprennent pas. Donc, par exemple, ils vont prendre des positions vente à découvert, ils vont acheter des produits qui leur permettent de se protéger de la baisse. Le problème, c'est si tout le monde fait comme ça, si on se protège de la baisse, on n'est plus vendeur potentiel. Donc en gros, ce qu'il faut analyser, c'est la conséquence des prises de position et non pas la prise de position. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est réellement sur un marché? Si je suis vendeur, je suis un acheteur potentiel, donc je risque de faire monter les marchés. Et si c'est l'idée qui est la plus répandue, eh bien les marchés ne peuvent pas trop baisser. Et c'est ce qui se passe actuellement.
Alors justement, ces marchés, on va essayer de profiter de vos 30 et quelques années d'expérience pour guider peut-être un
40.
Petit peu, 40 années quelques d'expérience pour guider un peu nos auditeurs. On sait qu'ils peuvent être parfois très volatiles et parfois un petit peu déraisonnables, on va dire. Comment est-ce qu'on gère une période de turbulence, justement? Par exemple, je pense aux périodes estivales, parce que c'est souvent comme ça qu'on caractérise un petit peu les périodes estivales. Mais il y en a d'autres, là. On pourrait penser à la période actuelle, avec effectivement toutes ces questions politiques qui peuvent ou qui vont peut-être, on verra ce qui se passe aux États-Unis, créer de l'émotion.
Alors, la première chose à faire pour un particulier, ce serait d'avoir des convictions et de se dire, bon, après la pluie viendra le beau temps. Donc, je vais tenter dans cette période de profiter de trous d'air pour acheter des valeurs dans lesquelles j'ai grande confiance. Alors souvent, ces derniers temps, on a plutôt recommandé quand je dis « on », c'est globalement.
Le marché, oui.
Ouais, c'est les conseils divers et variés de professionnels, mais des valeurs de rendement, par exemple, mais des grosses valeurs, pas les petites. Et donc, on va simplement attendre des prix intéressants. Mais intéressant, peut-être pas à très court terme, mais au moins dans une perspective long terme. Et on a vu à nombreuses reprises que ça pouvait aller très très vite. Après, il y a le trader que moi je suis, où là, la volatilité, le fait que ça puisse bouger, ça nous intéresse. C'est-à-dire qu'en fait, on va travailler sur des dimensions autres que le prix, on va travailler sur la volatilité implicite, c'est-à-dire ce qu'on attend de la suite des événements. À ce moment-là, les différents acteurs des marchés peuvent venir se protéger. Et ça peut être des gérants, bien évidemment. Et ils vont acheter des puts, des options de vente. Ou ils vont acheter des calls pour se protéger dans l'autre sens. Et donc, il va y avoir une forte demande. Et la volatilité anticipée à ce moment-là par le gérant, par le particulier, par le spéculateur, va faire que ces options vont être très chères. Donc, on va peut-être avoir tendance à vouloir les vendre. On peut les faire des spreads, bien sûr, mais on va essayer de les vendre. Et profiter de ces peurs, en fait, qui vont nous permettre de travailler sur le temps. C'est-à-dire que cette volatilité fait que les options sont très chères et le temps qui passe fait que les options valent à un moment donné leur valeur intrinsèque, c'est-à-dire potentiellement zéro. Et on va essayer de gagner cet espoir ou le fait qu'ils soient venus simplement se couvrir.
Donc, options, put, call, spread, enfin, je veux dire, ça fait quand même un paquet de vocabulaire, de mots, de techniques à bien avoir en tête. À cela, on rajoute un gros soupçon d'émotion qu'il faut être capable de gérer. Vous le disiez, parfois, on panique un petit peu. C'est-à-dire qu'il faut avant tout, et presque avant de maîtriser ces mots techniques, bien maîtriser ses émotions, savoir ce qu'on veut, c'est ça?
Très vite.
Ou ce qu'on ne veut pas.
Dès qu'on va faire quelque chose, l'émotion sera là. À un petit niveau au départ, si on achète et puis que ça se casse la figure et qu'on peut attendre 10 ans peut-être, hein, il y a quand même de l'émotion quelque part. Il faut en être conscient. Évidemment, un effet de levier de 2 va multiplier l'émotion par 3, ouais. par 4. Un effet de levier de 3 par 10, etc. L'idée, si vous voulez, c'est que il faut avoir conscience qu'en tant qu'humain, on va tous être influencés. On ne sera pas tout le temps rationnel dans nos investissements. On va donc être soumis à des biais cognitifs qui sont connus et qui sont quasiment impossibles à éviter. Et on dit que pour diminuer ces biais cognitifs, ces phénomènes émotionnels, l'impulsion que ça peut amener, il faut aller chercher la contradiction à ce qu'on pense quelque part.
D'accord.
D'où les forums, d'ailleurs, qui peuvent être des forums...
Faut pas s'enfermer...
Voilà, faut pas s'enfermer, ouais. Il faut remettre en cause ce qu'on pense. À la limite, aller sur un forum, ça peut être des pros, des semi-pros, etc., dire, moi, je pense que ça va monter parce que... il est toujours intéressant d'entendre, ah, ben moi, je pense que ça va descendre parce que... Ou je suis pas d'accord avec toi parce que... Ça baisse déjà l'impact de l'émotion qui nous faisait penser que ça allait monter. Ça permet aux traders de se remettre en cause. Et pour ensuite ne pas trop s'éloigner de ce qu'il faut faire, il faut se raccrocher à des méthodes.
Ouais. Il faut avoir une grande discipline, finalement.
Avoir une grande discipline. Ouais. Parce qu'en tant qu'humain, on a besoin de se raccrocher à quelque chose. Et là, on ne se raccroche pas aux branches, on se raccroche à une méthode qui ne va pas gagner tout le temps, mais qui va gagner parce qu'on l'a constaté, parce qu'on l'a fait sur du moyen long terme.
Pour terminer, Jean-Louis Cussat, quel conseil vous donneriez aujourd'hui à un auditeur qui dirait « Tiens, je me lancerais bien, j'expérimenterais bien l'émotion de trader. » Qu'est-ce qu'il faut faire pour démarrer ?
S'il veut trader...
Pour démarrer en limitant son risque. Hein, on reste dans un domaine patrimonial. Hein.
Ouais. Alors, s'il veut trader... Il faut qu'il apprenne le fonctionnement des marchés. Ça, c'est la première chose. Avant, moi, c'est dans les formations que nous faisons, on ne commence pas par une méthode. On commence par expliquer comment sont construits les marchés, les règles du jeu, pourquoi c'est construit comme ça. Alors, on va commencer par les actions, on va expliquer les règles et dire que le prix n'est pas issu du hasard. Le prix est légitime parce que les règles de fonctionnement sont hyper encadrées, à la différence des années 80, où là, c'était un petit peu olé-olé parfois. Là, c'est très, très encadré. Tout est contrôlé au millimètre près. C'est vraiment bien fait, si vous voulez. Les marchés ont beaucoup progressé sur le plan de la légitimité du prix. Ça, c'est très important. Ensuite, donc, une fois qu'ils se forment, etc., il faut qu'ils y aillent doucement au départ. Il faut y aller doucement. Il faut se construire, en fait, du vécu. Des situations. Et petit à petit, nous, par exemple, on propose une manière de procéder et les gens vont en garder peut-être 80%, soit 50%. Ils vont adapter à leur personnalité, à leur disponibilité. Si ensuite, on parle des gens qui vont investir en bourse, là, et qui n'y connaissent rien, il n'y a pas 36 solutions. Ils sont obligés d'aller voir un conseil en investissement financier, un conseiller, ouais. SCP, etc., et d'aller les voir et de leur dire, voilà, moi, c'est le boulot du CIF, hein, d'ailleurs, par exemple, qui va être donc de comprendre son client, d'analyser...
De savoir ce qu'il attend et de lui proposer des
exactement,
stratégies.
Exactement, ouais, et de lui proposer des placements adaptés à sa personne. Et les conseils sont faits par écrit, encadrés, avec pourquoi, comment. Et à la fin, le client prend conscience des risques, c'est ce qu'il faut. Parce que de toute façon, vous achetez 100 Air Liquide demain matin, c'est peut-être la plus belle valeur, mais il y a un risque.
Bien sûr.
Donc... Le client, il faut qu'il prenne conscience du risque, qu'il accepte ce risque et qu'il fasse aussi confiance à ce moment-là au professionnel à qui il s'est adressé.
Merci beaucoup Jean-Louis. Jean-Louis Cussat et Perceval Finance qui étaient au cœur de Patrimoine cette semaine.
Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.